OK, là, je suis démuté. OK. C'est un code 13. OK. Alors, on va commencer. Bienvenue dans le cours sur la formation de disciples. Je m'appelle Yannick Etier. Ce matin, on termine la leçon 7 avec notre foule ce matin. Et puis, on va couvrir la leçon 8. On va aller ensemble dans un mot de prière. Vous trouvez tout ça sur notre site web, les audios, les PDF. Si vous voulez vous mettre à jour ou suivre le cours. Père éternel, je veux te remercier pour la formation de disciples. Seigneur, c'est un immense privilège que tu nous accordes d'entrer dans ton œuvre, de participer à ton œuvre, d'assister à la transformation d'individus, Seigneur, alors qu'ils apprennent à te connaître de plus en plus, à être transformés à ton image. C'est un grand privilège, Seigneur, de pouvoir travailler avec des gens qui ont connu Jésus-Christ et qui désirent voir le caractère de Christ formé en eux, les écouter, les accompagner, les conseiller, les consoler, les reprendre, Seigneur. Quel privilège incroyable! Ça m'apporte énormément de joie, Seigneur, et je te prie de nous enseigner comme Église à entrer dans cette œuvre-là afin d'entrer dans ta joie, Seigneur. Entrer dans ta joie de voir cette famille, ce peuple nouveau que tu es en train de créer. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, j'y vais un petit peu de mémoire, parce qu'on doit terminer, on doit compléter la leçon 7, puis ensuite de ça, couvrir la leçon 8. Ça va vous donner l'impression qu'on est en train de finir le cours alors qu'il nous reste 5 dimanches, mais en réalité, j'ai rajouté du matériel après, où on va aller voir un peu toute la notion de formation de disciples dans le contexte familial. Après ça, toute la notion de formation de disciples en Église, comment l'Église fait s'investir ensemble dans la formation de disciples, que ce n'est pas simplement des relations un à un. C'est ça. Donc, il y a encore pas mal de matière. On a cinq dimanches, de cinq leçons encore à couvrir. Donc, si je me souviens bien, on a complété le point 2. Et on arrive à toute l'idée du culte personnel. On avait commencé à l'aborder, si ma mémoire est bonne, si ça ne me fait pas défaut. Ce que je voudrais aborder avec vous à cet effet-là, c'est, puis je pense que c'est ça qu'on avait commencé à voir ensemble, c'était l'idée que ce que je veux enseigner lorsque je fais de la formation de disciples, c'est je veux leur enseigner à écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu est en train de leur dire. Alors la relation que je veux qu'ils aient avec les Écritures, les gens que je suis en train de suivre, c'est une relation où ils apprennent à se nourrir eux-mêmes dans la parole, à d'une part construire une pensée biblique, ça veut dire à travers leur étude des Écritures, construire vraiment toute leur théologie, toute l'architecture de la vision du monde qu'un chrétien va avoir. C'est ça qu'on poursuit à travers notre lecture régulière des Écritures, d'une part. Puis d'autre part, ce que je cherche à leur communiquer, à leur enseigner, c'est à écouter quand Dieu te parle. Qu'est-ce que Dieu est en train de te montrer de ce temps-ci? Qu'est-ce que Dieu est en train d'adresser? Est-ce que vous voyez la nuance entre les deux? Est-ce que ça, c'est clair, la nuance entre les deux, ou pas vraiment? Dieu me parle personnellement, il adresse des choses dans ma vie. Il le fait à travers des circonstances, à travers mes chutes, mes succès, si on peut dire. Il le fait à travers des gens qui viennent me reprendre, à travers un non-chrétien au travail qui est un irritant pour moi, puis ça met en lumière quelque chose dans ma vie, un combat qui est là. Et donc, Dieu me parle à travers ces choses-là, puis dans mes dévotions personnelles, dans mon temps avec Dieu, à un certain moment donné, il y a un écho dans les Écritures. Jonathan Edwards appelait ça « spiritual impression ». Il parlait lorsque les Écritures viennent faire une impression sur ton cœur. Puis comme là, il y a un petit peu moins de contenu dans notre leçon, je vais juste développer un petit peu ici. C'est quelque chose d'important à comprendre dans votre expérience à vous de la lecture des Écritures. Puis si c'est quelque chose qui n'est pas clair, vous devriez chercher à lire là-dessus. Peut-être venez nous voir, on va vous diriger vers des bonnes lectures. Il y en a maintenant en français. C'est quoi l'expérience subjective du croyant lorsqu'il va lire les Écritures qui est biblique, qui est vraie, qui est légitime? Parce qu'il y a beaucoup de n'importe quoi dans notre rapport avec le texte biblique, des gens qui vont sortir, Dieu m'a donné une promesse, puis la promesse est hors contexte, ils partent avec ce verset-là, ils s'accaparent des passages, puis ils disent « ça, c'est une promesse pour moi, c'est pas juste une promesse générale », ou « Dieu m'a parlé à travers sa parole », puis quand tu prends le temps de regarder le contexte, lorsque Dieu a parlé, quand il a donné sa parole, c'est pas ça qu'il a dit en tout cas. Mais les gens sortent de contexte, ils le mettent pour leur vie à eux. Puis là, ça veut dire quelque chose d'autre. Est-ce que Dieu se sent des Écritures comme ça? Pas selon les Écritures. D'accord? Donc, lorsque je parle d'une expérience où je lis les Écritures, puis la parole de Dieu vient faire une impression sur mon cœur de manière particulière, c'est tout à fait dans son contexte. C'est juste que Dieu permet que je sois là. Puis, je n'ai pas besoin de chercher une expérience mystique du genre, je suis en train de lire le texte, puis là, je suis tombé là. Puis ça s'applique particulièrement à aujourd'hui. Puis donc là, Dieu me parle. Ben oui, peut-être que c'est le point de départ, mais peut-être que ça va me faire penser à d'autres passages dans les Écritures ou sur le coup, je vais aller ailleurs dans les Écritures. Puis là, toute ma pensée est en train de se structurer, est en train de s'ordonner, est en train de se construire. Donc, d'une part, ce qu'on cherche comme chrétien, c'est à changer notre vision du monde. On veut renouveler toute notre vision du monde, notre pensée, notre conception de Dieu, de nous-mêmes, du péché. Puis progressivement, à travers des cours bibliques, à travers les prédications, à travers les enseignements, on est tout en train de reconstruire une architecture dans notre esprit qui est biblique, qui va faire que je vais voir le travail comme il faut, je vais voir la relation de couple comme il faut, la relation avec mes enfants, la relation avec le péché, la relation avec le monde. Tout ça est en train de se placer. Des fois, je suis en train de prier, de méditer, de lire, puis le passage m'affecte particulièrement. Puis je dis, Dieu est en train d'adresser ça dans ma vie. D'autres fois, il va le faire à travers des circonstances. Mais clairement, il y a quelque chose, il y a une faiblesse ou une bénédiction, n'importe quoi, que Dieu semble souligner dans ma vie. Et ça, je veux enseigner aux gens que je forme à le faire comme il faut. Dans le sens que Dieu fait ça. Dieu nous parle. Dieu nous parle personnellement à travers des circonstances. Mais je ne veux pas qu'ils tordent les Écritures à travers ça. Fait que lorsque je suis en train de discuter avec eux de leur relation avec Dieu puis de leur dévotion, c'est une des choses que je veux aborder avec eux. De quoi Dieu te parle de ce temps-ci? Est-ce que c'est clair comment je vais travailler avec les Écritures? Est-ce que ça fait du sens pour vous ou pas vraiment? John? Yes? No? Oui? Non? OK. On va essayer de voir juste si je peux ajouter juste un élément pour le rendre plus clair, là. Bien, comment est-ce que je le fais dans le coaching? C'est que je vais carrément demander aux gens, je leur demande, de quoi Dieu te parle de ce temps-ci? Puis, à travers la conversation, on va comme clarifier, pourquoi est-ce que tu penses que Dieu te parle de ça? Tu sais, c'est quoi les circonstances? Est-ce qu'il y a des situations? Puis où je veux aller, dans le fond, dans cette conversation-là, c'est, OK, comment tu réagis dans ton cœur face à ça? Ton cœur est où par rapport à ça? Est-ce que t'es disponible, t'es à l'écoute, t'es ouvert à te soumettre, à obéir à ce que Dieu est en train de te montrer. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit là, dans le cadre de la formation de disciples, ce que je poursuis, c'est une espèce d'autonomie de la personne où elle apprend elle-même à se nourrir à partir de toutes les ressources qu'il y a dans l'Église, de la parole de Dieu, de l'œuvre de l'Esprit dans son cœur. Elle apprend elle-même à grandir. Puis là, j'ai un chrétien qui est mature, pas un chrétien qui pêche plus puis qui comprend tout, mais j'ai un chrétien qui sait comment grandir dans la vie chrétienne puis avancer de manière à peu près autonome. C'est ça que je poursuis. Une partie de ça va se trouver lorsque cette personne-là est capable de me dire, « OK, je comprends, Dieu est en train d'adresser ça. Il l'a fait par une prédication. Ça me touche lorsque je vais là-dessus dans les Écritures. Je le vois encore. Ça résonne avec quelque chose où je suis en train de résister dans ma vie personnelle. Puis Dieu est en train d'adresser ça. Puis là, j'apprends à amener ça dans la prière. » Oui, John? C'est pour ça que je dis qu'il y a deux choses. On est en train de construire, de renouveler notre pensée pour bâtir une bonne théologie. Moi, je vous dirais que la majorité des moments que je passe dans la parole de Dieu, je lis les Écritures, ça révise ma vision par rapport à quelque chose. Là, je suis dans Malachie, moi, je lis beaucoup dans Malachie pendant qu'on est dans Malachie, puis en même temps, je fais comme ma Bible tranquillement. Mais de ce temps-ci, c'est plus dans Malachie que je médite parce que je suis là. Fait que cette semaine, j'étais particulièrement touché par le passage que je vais prêcher tantôt. Mais je n'ai pas senti personnellement qu'il y avait quelque chose de spécifique pour moi. Okay? J'ai cherché comment ça s'appliquait à moi parce que je prêche. Mais je veux dire, dans mes dévotions matinales, je n'ai pas senti personnellement que Dieu est en train d'adresser un issue dans ma vie. Mais en même temps, j'ai étudié le texte. Là, ça m'a permis, là, si je prends par exemple ce texte-là, ça a tout révisé ma notion de la justice de Dieu, de la souveraineté de Dieu, de l'intervention de Dieu dans le monde. Comment il est intervenu lorsque Jésus est venu la première fois, comment il va intervenir la deuxième fois, puis comment moi je dois répondre face aux épreuves. J'ai fait tout ça. Même si personnellement, je ne quitte pas ce moment-là en disant, aïe aïe Seigneur, tu avais vraiment quelque chose où tu voulais me challenger concrètement pour aujourd'hui, là, de ce temps-ci. On a fait beaucoup de travail spirituel ensemble déjà à travers ça. C'est énorme. J'ai tout révisé ça. Puis en révisant tout ça dans ma lecture, en révisant tout ça, je suis porté à l'adoration. Fait que l'œuvre de l'Esprit est toute là, là. Okay? Dieu a travaillé. Fait que si quand je suis en train de faire de la formation de disciple, la personne me dit, mais ça ressemble un petit peu à ça ce qui se passe lorsque je lis, fine, c'est parfait pour moi. Ça, c'est il y a beaucoup de matins dans l'année qui se passent comme ça. Puis il y a d'autres fois où là, tu es comme, tu sais, pendant un instant, tu as l'impression que ce verset-là, il a été écrit juste pour toi, pour ce matin, pour maintenant. Parce que Dieu est en train d'adresser quelque chose. Mais une des manières que je vais valider que je ne suis pas en train de partir sur une frippe, c'est que je vais aller voir qu'est-ce que ce texte-là disait au premier lecteur. Si ce texte-là disait au premier lecteur, en gros, la même théologie que moi, je lis dedans, ça va, OK, je suis sur une bonne piste. Mais il y a une impression spirituelle dans mes émotions que ça éveille quelque chose qui est différent de ma réponse plus au quotidien aux Écritures. Maintenant, je vais venir un pas en arrière. Ce que moi, je vous ai dit que je vis avec Malachie, puis là, je ne veux pas mettre personne en boîte, je ne suis pas sûr que tout le monde ici vit ça juste dans ses lectures quotidiennes. Donc, juste l'expérience de dire, je lis les Écritures, j'apprends à comprendre ce qu'il y a là, je révise ce que ma vision du monde aujourd'hui, de Dieu, de moi, tout ça me porte à un petit peu plus de zèle pour la sainteté, ça me donne le goût d'adorer Dieu. Et déjà, ça, tu sais, puis c'est pas comme un highlight sur un verset en particulier. Déjà, si je peux enseigner ça aux disciples que je suis en train de former, combien y a de gens qui nous disent « Écoute, je lis les Écritures, puis c'est plate, je ne retire rien de ça. » Fait que j'ai du travail à faire là. Bon, mais je vais aller avec eux pour discuter. OK, comment est-ce que tu fais ça? Dans quel contexte tu le fais? Combien de temps tu y consacres? Est-ce que tu as besoin d'une petite introduction pour comprendre le texte? Fait que quand tu es dans Malachie, ben oui, ça vaut la peine de lire un petit peu pour aller chercher beaucoup plus dans Malachie que juste un Dieu fâché après un peuple pas gentil. T'sais? Parce que si tu n'as pas plus d'informations, ça se peut que tu retires surtout ça de Malachie. Mais c'est infiniment plus que ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a deux choses que je cherche à travailler lorsque je les accompagne dans leur relation avec Dieu. Comme leur théologie, je vais appeler ça leur architecture dans leur tête, de leur relation avec plein de choses que la Bible adresse puis que le quotidien adresse. On veut progressivement renouveler notre intelligence sur plein de choses. Ça va affecter mes sentiments, ça va me donner le goût de louer Dieu, ça va me donner le goût de marcher dans la sainteté. Et plus personnellement, qu'est-ce que Dieu est en train d'adresser dans ta vie? Ça, c'est un des aspects que je veux travailler dans le coaching, la formation de disciples. L'autre volet, c'est au niveau de la prière. Alors, où est-ce que tu es dans la prière? Est-ce que c'est un endroit, un lieu où tu prends plaisir à rencontrer Dieu, à l'adorer? Après avoir lu les Écritures, tu t'as été nourri. Est-ce que tu vas là? Est-ce que tu apprends à intercéder? Il y a un million de sujets qu'on va aborder. Qu'est-ce que tu fais avec les requêtes que Dieu ne répond pas? Parce que si je ne vais pas adresser tout ça, ils vont arrêter de prier. À moins que ce soit des mystiques, il y en a qui trippent sur la prière, d'autres sont plus intello. Mais à moins qu'il y ait comme une espèce de prédisposition, tu sais, eux autres, ils aiment ça, aller faire ça, la majorité des chrétiens vont éventuellement abandonner. Donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu apprends pour lutter dans la prière, rester avec des requêtes qui sont longues, rester avec des choses que ça prend 10 ans avant que Dieu réponde, aller adresser ton caractère dans la prière, apprendre à intercéder? Ça, c'est des choses qu'on va discuter carrément ensemble. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires sur ça? Ou vous dites, OK, c'est fini, je ne coach pas. Oui? Vas-y, il va t'allumer.
Je voulais juste dire que c'était bien, Nick, que tu donnais des exemples de questions ouvertes. Comment tu adresses les étapes, les questions. Là, ça nous aide. En tout cas, moi, ça m'aide.
OK.
Ça, c'est super.
OK. C'est beaucoup dans le dialogue. Si je ne fais pas ça, si je n'ai pas des questions ouvertes où je demande aux gens d'apprendre à discerner comment Dieu travaille, l'expérience qu'ils vont avoir, c'est que Dieu travaille quand ils sont avec vous. Puis après ça, ils s'en vont. Puis c'est pour ça que je dis, moi, ce que je poursuis, c'est la maturité. La maturité, ce que les prophètes nous disent dans l'Ancien Testament, c'est qu'un jour allait venir où Dieu allait nous donner un cœur nouveau, puis on serait tous des enseignants. De quoi il veut, de quoi il parle quand il dit on est tous des enseignants? On a son esprit en nous, on apprend à connaître la parole, on est capable de se reprendre, de s'exhorter les uns les autres. Je suis capable de reprendre mon propre cœur comme le psalmiste le fait, puis me parler à moi-même, mon âme. Tu sais, pourquoi t'as battu mon âme? Fait que je veux leur apprendre ça. Les gens font peu d'introspection. Les gens font peu d'introspection en faisant juste ce jeu de ping-pong-là avec la parole de Dieu. Dans la prière, ils ne vont pas écouter ce qui se passe dans leur cœur qui fait qu'ils arrêtent de prier. À travers le coaching, c'est ça qu'on cherche à faire. Puis on le fait à travers des choses que Dieu adresse dans leur vie. Qu'est-ce que Dieu est en train de travailler? Fait que je mentionnais la semaine dernière, on était allé à Sourla l'autre fin de semaine dernière, le vendredi, samedi, puis là, on a fait comme 4 heures de coaching, 2 heures en montant, 2 heures en revenant ou à peu près. Essentiellement, c'est ça qu'on a fait. On est rentré, on adressait une chose particulière. En fait, on a traité 2 questions en 4 heures. Mais on s'en allait là. Puis là, il posait des questions. Pourquoi est-ce que tu me dis que c'est ça que je devrais faire? J'ai l'impression que tu travailles sur le symptôme au lieu de travailler sur le problème. Je dis oui, mais on va mettre le symptôme vraiment en lumière. C'est ça qu'on va faire. On va voir qu'un moyen de grâce simple, comme la redevabilité, ne va pas te conduire dans la sainteté. Moi, je vais aller dans la sainteté. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est bon, la redevabilité. Mais après ça, on va aller mettre en lumière l'idole qui est derrière, qui fait que la redevabilité n'est pas suffisante. Pourquoi je fais ces étapes-là? Pourquoi je suis en train de faire ça? C'est parce que je veux l'aider à devenir un étudiant de son cœur. Je veux l'aider à comprendre la dynamique du péché dans sa vie. Je cherche la maturité. Oui, John?
Mais si tu n'as jamais fait d'introspection, comment tu fais pour...
Aha! Ben,
de l'introspection.
Oui, c'est ça. Ça se développe. On travaille ça avec le temps. Il y en a qui sont plus naturellement introspectifs, là. Puis il y en a qui le sont moins. Mais si tu veux être capable de coacher, puis, je veux dire, même pour toi, pour ta propre maturité, c'est quelque chose que les chrétiens doivent tous travailler. Apprendre à poser. C'est des questions. C'est des questions. Fait qu'il faut que tu apprennes à le faire. Ma réponse, c'est qu'il faut t'apprendre à le faire. Il faut t'apprendre à le faire pour toi. Les manières simples de le faire, c'est que tu décides aujourd'hui, je commence à tenir un journal personnel. Là, tu dis, ouais, man, oublie ça, je ne vais pas faire un journal. Un journal personnel, c'est une ligne au début. C'est 2 lignes, c'est une phrase. Puis la question à laquelle tu réponds, c'est qu'est-ce qui m'a le plus écœuré dans ma journée? Tu réponds à ça. Si tu as le temps, tu réponds à une 2e question. Pourquoi? OK. Comment j'ai réagi? Qu'est-ce que Dieu aurait voulu que je fasse? Pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai pas réagi comme Dieu aurait voulu que je réagisse? T'sais? Puis, tu fais juste te poser des questions comme ça pour te mettre sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Qu'est-ce qui m'a le plus écœuré aujourd'hui? À quel moment j'ai été surpris par quelque chose de beau que Dieu a fait dans la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qui a fait que j'ai été sensible à ça? Puis des fois, je ne suis pas sensible à ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que je porte de la culpabilité dans mon cœur aujourd'hui? Je termine la journée. Est-ce que j'ai transporté de la culpabilité aujourd'hui? Oui, pourquoi? Quelle sorte? Ça vient d'où? Fait que j'apprends juste à me poser. Puis là, ben, c'est ça. Il faut faire une distinction. Apprendre à faire de l'introspection. Puis être capable d'accompagner quelqu'un dans son introspection pour le coacher, c'est comme une autre étape un peu plus loin. Fait que si vous l'arrivez là, puis que vous ne faites pas ça, ça va être un gros défi. Parce que vous allez chercher une recette. Dans le fond, vous allez dire, c'était vraiment poche le cours à Yannick, parce qu'il ne nous a pas donné un manuel en 150 pages où je fais juste savoir qu'est-ce que je dois dire dans chacune des rencontres. Yannick nous a dit que du coaching, c'est du freestyle. C'est ça qu'on fait, tu sais. Mais c'est un petit peu ça quand même, parce que c'est super dynamique. Je suis en train de travailler avec un cœur humain qui est devant moi, tu sais, une âme qui veut grandir. Fait que si tu n'es pas capable de faire de l'introspection, c'est pas une culture dans ta vie, c'est pas une habitude, ça va être difficile de faire le coaching parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rappeler des recettes que tu as apprises, soit à travers tes épreuves personnelles, parce qu'on grandit tous à travers... Il y a des choses que j'ai vécues, je suis allé demander à quelqu'un, il m'a donné une recette, il m'a donné un moyen... comme un protocole à suivre, je l'ai appliqué, ça marchait. OK, j'espère que c'est la question qu'ils vont me poser cette semaine dans mon coaching, parce que ça, j'ai la réponse. Fait que je vais répéter des choses comme ça. Mais si j'apprends progressivement. Apprendre toutes ces choses-là, c'est tout bon. Là. C'est dans les Écritures, qu'est-ce que je fais face au péché, tel péché, tout ça. Si j'apprends à prendre ces choses-là, puis à les travailler dans mon cœur pour que ça devienne dynamique, parce que je suis capable de faire de l'introspection, je suis capable de me poser des questions ouvertes puis examiner qu'est-ce qui se passe. Après ça, je suis capable d'aller m'asseoir avec quelqu'un puis faire la même chose avec la personne. Écouter cette personne-là, puis tranquillement interagir avec lui pour l'aider, pas lui donner une recette, l'aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. D'après toi, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a conduit là? À quel moment? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton cœur où tu as eu conscience que tu résistais à Dieu? OK. Peut-être qu'il y a une repentance qu'il faut qu'il se vive par rapport à ça, parce que tu vas reproduire les mêmes patterns. C'est pour ça qu'on dit que le coaching, la meilleure manière de l'apprendre, c'est d'être coaché. D'accord? C'est Richard Roule qui me rappelait dans un courriel « It's more caught than thought », tu sais.
Il y a un exercice dans...
Juste répéter le livre, s'il te plaît.
Dans le livre « Instruments dans les mains d'un rédempteur », un exercice que... Il y a, je pense, c'est 6 questions pour faire un débogage, mettons, d'une vignette, là, d'une tranche
d'une
de vie.
D'une situation de vie.
C'est ça. Ouais. Que je trouve super pratique, là. C'est juste un commentaire comme ça. Là. Ce livre-là a des exercices, des devoirs dedans, mais...
On pourrait vous en donner... OK, je vais faire ça. OK, je vais vous arriver avec comme 2-3 modèles de vignettes, là. Des vignettes, c'est... Tu prends une situation de vie... Puis tu poses des questions ouvertes comme ça pour les analyser. Je vais vous en donner 2-3, d'accord? La semaine prochaine, peut-être je ne reviendrai pas sur toute l'explication. Je vais juste vous donner le matériel, puis on verra si vous avez des questions. Ça aidera. Donc, si tu ne fais pas de l'introspection, c'est mieux de commencer maintenant, parce que ça va être... Dans le coaching, tu vas arriver avec des recettes. Puis tu n'aideras pas la personne à devenir autonome. Elle va devenir aussi autonome qu'elle va avoir intégré le nombre de recettes que tu vas lui avoir données. Puis son autonomie, dans le fond, ça ne sera pas une vraie autonomie. Quand tu formes un mécanicien, tu lui apprends les bases. Puis une fois qu'il y a les bases, tu lui dis, ce véhicule-là, là, que tu n'as jamais réparé, là, tu vas être capable de trouver comment le réparer. Tu sais où aller chercher des informations qui te manquent. Tu as tes bases, tu peux t'adapter à ce véhicule-là, même si tu n'as jamais fait ce job-là. Tu as tes règles, tu as tes principes. Je commence par où, je fais ma job. Tu sais. C'est ça qu'on veut faire avec les gens qu'on coach. Fait que si vous le faites pas, puis vous dites « je me vois pas faire ça un jour », mais faites-le premièrement pour votre bénéfice. Prenez la décision aujourd'hui de dire « je commence à tenir un journal personnel, je vais écrire 2 lignes dedans, une phrase. » Puis cette semaine, à chaque jour, répondez. Pendant une semaine, vous pouvez répondre à une question. Qu'est-ce qui m'a le plus écœuré aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a le plus tombé sur les nerfs aujourd'hui? Si vous avez le temps, vous répondez à une deuxième question. Pourquoi? Troisième question, comment est-ce que j'aurais dû répondre à ça? Qu'est-ce que Dieu voulait me dire par rapport à ça? D'accord? Puis vous allez voir, c'est pas si complexe que ça une fois qu'on en développe l'habitude ou la discipline. Ça va? Donc ça, c'est les choses qu'on veut travailler au niveau de la relation, au niveau de la redevabilité dans sa relation avec Dieu, au niveau des priorités. Donc, dépendamment du contexte, là, lorsque je coach des leaders, personnellement, ça va loin dans le sens que je les coach vraiment sur leur gestion de temps. Puis c'est une des parties difficiles. Je suis en train de coacher des jeunes qui n'ont jamais été coachés par moi puis qui ne viennent pas de la culture ici. Au début, c'est difficile. On regarde tout leur agenda. Fait que c'est un exercice que je vous encourage à faire au moins une fois ou deux avec les gens que vous allez coacher. Si vous coachez des leaders éventuellement, là, les gens sont carrément au travail sur l'horaire à toutes les sessions. Mais littéralement, là, ce qu'on fait, là, puis moi, c'est comme ça que ma vie est construite. Là. Dans une semaine, j'ai 21 blocs. J'ai 3 blocs par jour, avant midi, après-midi, soir. Autour de ça, j'ai comme ma vie, là, de brosser les dents, manger, tout ça. Mais je peux vraiment utiliser à peu près 21 blocs par semaine. Fait que là, je pars. Je dis, OK, c'est combien de blocs dans mes 21 blocs je devrais consacrer au travail? Combien de blocs dans mes 21 blocs je devrais consacrer à prendre soin de ma famille? Combien de blocs servent à du repos vraiment? Combien de blocs pour servir? Puis là, on regarde ça. Fait que ce que je vais faire en général, c'est que je vais demander à quelqu'un, je vais dire, écris pendant 2 semaines tout ce que tu fais avec ton temps. Pendant 2 semaines. Comme si quelqu'un allait être suivi par une diététicienne. Là. On écrit ce que tu manges pendant 1 semaine. On fait ça. Après ça, on travaille sur son agenda pour 1 semaine, littéralement. Okay, qu'est-ce que tu vas faire? Puis après ça, surtout avec un leader, il va être redevable. Est-ce que je réussis à faire ce que j'avais planifié faire? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? D'accord? Donc, moi, je vous dirais, au moins 1 fois ou 2 dans l'année, le faire avec les gens que vous coachez, C'est quoi tes priorités? Comment tu gères ton temps? Est-ce que tu arrives à travailler productivement avec tes priorités? Est-ce que tu arrives à aller dans cette direction-là? Parce que là où la personne dépense son temps, puis là où la personne dépense son argent, te dit à peu près tout sur sa foi. Tu sais à peu près tout sur la spiritualité de quelqu'un si tu as ces deux informations-là. Dans les faits, c'est ça. C'est, même si je travaille sur des symptômes, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le cœur, les symptômes me disent énormément de choses sur la personne. D'accord? Donc, c'est un petit peu comme je disais tout à l'heure, quand j'asais avec l'autre gars dans le coaching, je peux avoir l'air de commencer par quelque chose d'extérieur, de superficiel, qu'est-ce que tu fais avec ton temps cette semaine, mais en réalité, ça me permet d'aller vers le cœur. Puis dire, OK, maintenant, tu pourrais prendre du temps avec Dieu à cet endroit-là, puis juste prier, devenir un intercesseur. Comment tu conçois ton repos? Comment tu conçois tes loisirs? Les loisirs puis le repos, c'est pas la même chose. Les loisirs, ça peut être une petite partie du repos. Mais à part de ça, les loisirs, ça sert absolument à rien. C'est bon peut-être pour l'évangélisation. Oui, c'est vrai, pour avoir des contacts, des relations, puis on va pouvoir parler du Seigneur. Fait que, on va dans la priorité de la gestion de temps, d'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça?
Excuse-moi. Il y a un coup qui t'a montré, mettons, son horaire, ce qu'il fait, là. Tu fais quoi? Tu fais l'analyse de ça, puis tu... Comment tu
je gères? Ça dépend. Si je suis avec un leader, moi, les gars que je coach, je m'envoie un rapport de redevabilité hebdomadaire à toutes les semaines. Puis en gros, c'est pas qu'ils me donnent toute leur semaine à chaque semaine. C'est qu'ils me disent, en gros, j'ai réussi à respecter mon horaire, le point faible, c'est ça, puis c'est ça. Parce que là, on travaille sur une discipline. Bon, moi, je forme des gars pour le pastorat, il faut que les gars soient hyper autonomes. Dans le pastorat, tu peux faire un burn-out ou tu peux te tourner les pouces. Tu livres un sermon le dimanche, tu fais 3-4 visites, les gens ne savent pas c'est quoi un pasteur, qu'est-ce que ça fait, tu donnes l'impression d'avoir travaillé. Tu peux faire ça une couple d'années avant que l'Église dise « mais on s'en va nulle part ». Tu sais. Ou tu peux faire un burn-out parce que tu n'es pas capable de te gérer. Fait que faut que les gars soient hyper autonomes s'ils s'en vont dans le pastorat. Là, nous, on a un contexte d'équipe où tu sais, comme tout le monde se voit un petit peu fonctionner, mais je veux dire, c'est exceptionnel, là, ça, une assemblée aussi grande que ça. Fait qu'avec les leaders, redevabilité hebdomadaire, avec quelqu'un qui est pas justement dans le leadership, ce que je vais faire, c'est qu'on va au moins faire une prise de conscience. Ce que je cherche, c'est la prise. Les gens qui travaillent avec un agenda, OK, je vais faire quelque chose d'un petit peu gênant. Qui ici travaille avec un agenda où vous planifiez, tous vos blocs de la semaine prochaine sont déjà planifiés? Il n'y en a pas beaucoup, là. Puis soyez pas mal à l'aise, il y a très peu de gens, d'accord? Moi, tous mes blocs des deux prochains mois sont tous planifiés. Vous demanderez à Annie Dagenais, c'est elle qui book mes rendez-vous, elle s'arrache les cheveux à toutes les semaines, d'accord? Fait que juste parce qu'il arrive des situations d'urgence pastorale, puis là, on cherche comment le faire, tu sais. Fait qu'il y a très peu de gens qui font ça, mais quand je fais l'exercice avec la personne, de dire, là, tu vas écrire cette semaine tout ce que tu fais. OK, on va le faire une deuxième semaine. Puis là, on va dire, maintenant, on va tasser ça, puis on va dire, qu'est-ce que tu aimerais faire? Selon toi, là, qu'est-ce que tu aimerais faire dans une semaine? Casse-toi pas la tête avec ce qui n'est pas possible. T'sais. Fait que moi, personnellement, je le fais là. Je le fais à chaque année. À chaque année, je me pose la question. Le pasteur idéal, avec mes dons particuliers à moi, il ferait quoi avec 7 jours dans une semaine? Là, évidemment, ça me prend une semaine, ça me donne une semaine d'à peu près 300 heures. T'sais. Après ça, je dis, OK, ça ne doit pas être ça l'idéal, parce que Dieu ne m'a pas donné 300 heures. Fait qu'on va ajuster ça. T'sais. Et là, je fais du ménage. Fait que je fais cet exercice-là comme une prise de conscience, même avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement un leader en formation. Cette prise de conscience-là permet de dire, OK, maintenant, tu vas prioriser des choses. Fait que, au lieu de travailler sur, comme toute la semaine, on va identifier une ou deux choses que tu veux intégrer maintenant. Parce que pour de vrai, les disciplines, ça s'intègre une à la fois. D'accord? C'est juste qu'avec un leader, je lui demande une transparence qui me permet de l'examiner au complet, sur une base très, très régulière. Avec celui qui aspire pas au leadership, je suis sur un processus moins pressé, disons, puis j'assume moins de maturité. Bon, ben dans ce cas-là, c'est une prise de conscience, on définit un idéal, puis après ça, on dit, je vais intégrer une chose, une priorité à la fois, qu'est-ce que je peux intégrer, sur quelle discipline je travaille. Souvent, quand vous commencez le coaching, la personne n'apprend pas de temps régulier avec Dieu. Souvent, on va commencer là. T'sais. Après ça, peut-être que je vais dire, OK, à quel moment dans la semaine tu peux planifier la prochaine semaine? Là, tu vas répondre à la question, c'est quoi la chose que si tu ne le faisais pas cette semaine, tu aurais l'impression d'avoir manqué devant Dieu ou tu serais vraiment triste, tu serais déçu parce que ça, il fallait vraiment que tu le fasses. Tu vas identifier ça, okay, à quel moment tu vas le faire cette semaine, planifier ça. Tu sais, ça, c'est des petits principes de base en gestion personnelle. Là. C'est bon? Mais je veux le travailler avec eux parce que je cherche l'autonomie, la maturité. C'est ça que je cherche, d'accord? Fait qu'à un moment donné, ils vont pouvoir appliquer ça sur être un bon père de famille, être un bon époux, être un bon employeur, un bon employé. Discussion autour d'un livre. Pour être très franc avec vous, je l'ai dit au début de la semaine dernière, personnellement, c'est le morceau qui saute le plus vite. Ce que je vais plutôt faire, c'est m'assurer que les gens sont en train de lire, sont dans un processus de croissance au niveau de la lecture. J'avais cet idéal-là, j'avais lu que ça fonctionnait, mais moi, j'ai beaucoup de difficultés à le faire. Quand on travaille tous ces éléments-là dont je vous ai parlé jusqu'à présent, puis qu'on est, admettons, je suis avec trois gars ou avec deux gars, puis on est en triade ou en quad, trouver encore un 30-40 minutes pour discuter de ce qu'on a retiré d'une lecture, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça. Mais je veux m'assurer, par exemple, que les gars sont dans un processus où ils apprennent à se nourrir eux-mêmes puis à se nourrir des bonnes choses, des bonnes lectures. C'est plus ça que moi, je vais travailler. Moi, je vous dirais, si vous dites, « Ouais, mais Yannick, si tu me demandes de faire le freestyle, là, que tu me parles au niveau de discuter, qu'est-ce que Dieu est en train de te dire de ce temps-ci? » Puis vous dites, « Moi, là, après 5 minutes, c'est comme je ne sais même plus où je m'en vais. » Ben c'est bon dans ce temps-là. Allez-y avec la lecture. Dites, nous, dans nos rencontres, on va consacrer 45 minutes à partager sur notre lecture. Ça vous donne un contenu, ça vous donne de la matière. Au fur et à mesure que vous allez prendre l'expérience, probablement que ce temps-là va diminuer. Parce que vous allez savoir intuitivement ce que vous êtes en train de travailler avec les gens. Est-ce que ça va? Oui? T'entends-tu ça? Comme un petit ping-pong de temps en temps. Bizarre. OK. Vas-y, non.
Excuse-moi, je t'arrête demain. Là, je suis en train de penser à ce que tu viens de dire. Tu sais, pour les gens qui ne sont pas dans une trajectoire de formation,
de leadership, ouais.
On peut-tu plutôt parler de tes lectures actuelles, de qu'est-ce que tu consommes comme information? Parce que souvent, les gens, ce qu'on entend autour de nous, je vais sur des sites web écouter des prédicateurs, je vais lire des articles ou des... Dans le fond, ma question, c'est on peut-tu penser aussi que c'est une avenue qui...
Ah, tu veux dire d'autres choses que des bouquins?
Oui, c'est ça.
Oui, définitivement.
La lecture de bouquins, les gens
tu prends la personne là où aller. C'est ça, tu prends la personne là où aller. Okay. Oui, merci pour la question, c'est super bon. Tu prends la personne où elle est. Si c'est une personne qui ne lit pas sa Bible puis qui ne lit rien du tout, ce qui est le cas de beaucoup, 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 beaucoup de Québécois, bien aujourd'hui, c'est ça. Tu peux y apprendre, bon, OK, tu vas aller t'acheter un lecteur MP3 super cheap puis on va trouver une Bible en audio à mettre là-dessus puis tu vas commencer par écouter ça dans ton auto. T'sais. J'ai coaché des gars là, qui sont zéro intello par leur métier, par leur histoire. T'sais. Fait que, oui, c'est ça. Fait que je peux puiser dans un million de ressources, d'accord? Leur apprendre à revenir sur le message du dimanche. Okay, cette semaine, ce que tu vas faire, c'est que tu vas méditer le passage sur lequel tu as déjà entendu le message. Tu vas revenir dessus, puis tu vas juste prendre des notes pour dire qu'est-ce que moi je peux tirer pour moi, pour ma vie. T'sais? Puis est-ce qu'il y a un verset en particulier qui te touchait ou ça te fait penser à un autre verset dans les Écritures? Tu vas prendre ce verset-là, tu vas méditer dessus pendant la semaine. C'est nulle part écrit dans les Écritures que tu dois lire la Bible tous les jours. C'est pas écrit. La Bible, c'est premièrement un livre de lecture publique. D'accord? Maintenant, on voit le privilège du roi dans l'Ancien Testament qui faisait sa copie du texte biblique puis qui devait l'étudier. Fait qu'on arrive dans le Nouveau Testament puis on se dit ce privilège que le roi avait dans l'Ancien Testament d'avoir l'Esprit qui venait sur lui, nous, on a le privilège de l'avoir chacun en nous. Puis on est tous appelés à être des enseignants. Donc, ça va de soi que je veux amener les gens vers une autonomie dans les Écritures, à lire, à méditer les Écritures. Je pense que c'est la bonne voie, mais je m'adapte où ils sont. Je pars avec eux, d'accord? Ça peut être à travers des prédications aussi. Je peux leur dire, écoute, tu vas aller écouter telle série, d'autres prédicateurs, puis les nourrir avec ça. Oui. Merci pour la question. Mais je veux les amener à un endroit où ils apprennent justement à ne pas consommer n'importe quoi qu'ils trouvent sur le web, mais à consommer avec discernement. Parce qu'honnêtement, il y a vraiment n'importe quoi aussi. Fait que c'est pour ça que je veux les diriger vers des bonnes lectures. On est en train de construire ce que tu penses. Comment ils voient le monde. Comment ils voient Dieu, comment ils se voient eux-mêmes. Super important, vous ne quittez jamais une rencontre sans vous entendre sur qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi vos devoirs, qu'est-ce que tu vas faire. Il faut qu'ils l'écrivent, il faut qu'ils prennent en note. Souvent, ce que je vais faire, on est pressé, je vais dire, regarde, on s'entend, tu me renvoies un courriel où tu me dis qu'est-ce que tu vas faire. D'accord, on s'est entendu, c'est quoi? Envoie-moi un courriel, moi ça me permet de garder une trace, je n'ai pas eu le temps de le noter. Tu as la responsabilité de m'envoyer un courriel aujourd'hui où tu me résumes qu'est-ce que tu vas faire. Il faut absolument que vous entendiez sur... Qu'est-ce qu'eux autres ont à faire d'ici la prochaine rencontre? Qu'est-ce que vous allez faire? c'est super important de prendre le temps d'encourager. En tout cas, ça dépend de vos forces, de vos faiblesses, mais moi, personnellement, je suis un débogueur. Dans ma tête, là, je débogue les gens. Les gens arrivent, les gens viennent voir Yannick, ils veulent un conseil, ils veulent comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Puis moi, ça a tendance à me mettre sur un mode automatique où, OK, chirurgie, let's go, on sort le scalpel, on fait la job, tu sais. Puis la personne, elle vient me voir avec cette requête-là. Fait que moi, j'embarque sur ce mode-là. Puis OK, on referme tout ça, next. Mais la personne derrière ça, ça se peut qu'elle se réveille le lendemain matin, puis elle dit, OK, j'étais ouvert, puis là, elle est toute découragée, puis elle ne comprend pas, tu sais. Elle est venue en me demandant de l'aider. Moi, il faut que j'ai la maturité de dire, OK, attends un petit peu, là. Elle vient avec ça, mais toute l'info que j'ai, avec laquelle je l'assaille, comment elle va vivre ça demain matin? Fait que c'est super important d'apprendre à prendre le temps d'encourager la personne. Puis honnêtement, c'est quelque chose que je dois travailler. Dernièrement, j'étais avec mon bon ami, Miguel, puis il dit, ça, c'est quelque chose qui reste à travailler. Il soulignait, c'est vrai, dans ma vie, c'est quelque chose, il faut que je m'en rappelle, parce que je suis un débogueur. Puis les gens viennent, puis c'est comme si eux, ils veulent pas abuser de mon temps. Fait qu'ils viennent sur le mode, OK, help, donne-moi une solution. Yes, je donne une solution. Là, j'oublie complètement cet aspect-là. Il faut que j'encourage la personne, sois patient. Dieu va travailler. Fait que j'embarque sur ce mode-là. Quand je lis un désarroi, du découragement, quelque chose, là, je m'en vais là facilement. Mais il faut développer le réflexe. Quand tu quittes les gens, là, si ça a été une bonne rencontre, là, ils ont de la job. Il faut que tu les encourages. Il faut que tu prennes le temps de leur rappeler. Dieu est là, Dieu est en train de construire, on va avancer ensemble. Ça va prendre du temps. C'est normal. On va se revoir dans 2 semaines. C'est bon? Super important. Je saute tout de suite à la page 7. Après la rencontre, vous devez prendre des notes. Après la rencontre, c'est pas obligé d'être une page de notes. Okay? Moi, je me sers d'une petite application Evernote. Dans Evernote, dès que je commence à coacher quelqu'un, je m'ouvre une note Evernote. Et puis, à chaque rencontre, je fais juste ajouter un petit paragraphe avec la date. À chaque rencontre. Vous devez prendre des notes. D'accord? Parce que vous allez avoir de la difficulté à suivre la personne dans son évolution, à bien la conseiller, à vous rappeler des choses que vous avez discutées, à vous rappeler des choses que Dieu est en train de travailler. Et c'est super utile, après 3 mois, 6 mois, 1 an, d'aller juste prendre le temps de relire l'ensemble des notes rapidement. Là, vous voyez qu'est-ce qui a été travaillé, les progrès qui ont été faits, vous allez pouvoir l'encourager. Mais vous voyez les affaires aussi. Il me semble que ça fait 3 fois qu'on parle de cette affaire-là, puis on vient toujours à la même place. D'accord? Et si vous décidez de faire du coaching comme on vous encourage à le faire en général, ça veut dire en triade ou en quad, mais là, en plus de ça, c'est plusieurs vies qui se mélangent. Fait que si vous ne prenez pas de notes, c'est difficile à suivre. Quand vous êtes rendu à votre deuxième, troisième, quatrième trio ou quad là, que vous avez suivi, là, vous allez voir, ça va tout se superposer dans votre mémoire, ces affaires-là. Ça va devenir difficile de conseiller. Donc, je l'ai dit au début du cours, apprenez à prendre des notes pour votre vie à vous. Vous achetez un calepin aujourd'hui, un cahier Canada, n'importe quoi, vous dites ça, c'est mon journal. Chaque fois que vous pensez qu'il y a quelque chose qui devrait être noté, vous allez l'écrire. Vous allez peut-être écrire dedans 2 fois par semaine, c'est pas grave. Ça va peut-être être 2 lignes chaque fois, c'est pas grave. Mais apprenez à le faire, apprenez à relire ça une couple de fois dans l'année ou une fois par année pour voir qu'est-ce que Dieu a adressé dans l'année. Puis faites la même chose avec les gens que vous suivez, c'est super important. Apprenez à prier pour eux aussi régulièrement. Apprenez à prier pour les gens que vous êtes en train de suivre. À les porter dans la prière. Parce qu'autrement, vous allez vous décourager, puis quand vous allez les rencontrer, vous n'arriverez pas à être la personne qui croit dans l'œuvre que Dieu peut faire en eux. Vous allez l'essayer par vos propres forces, mais les gens ne changent pas plus vite que vous changez. T'sais. C'est pas parce qu'ils sont coachés que oups, ça va être magique. Fait que j'ai besoin constamment d'être vraiment branché sur le Seigneur dans la prière lorsque je suis les gens. On va aller à la leçon 8. C'est correct, on va pouvoir la couvrir, là, elle est très, très courte. La prochaine, on va aller un peu plus loin dans la prochaine leçon que dans la leçon 8. C'est simplement, c'est quoi les outils qui sont à votre disposition ici dans l'Église comme coach? Bien, évidemment, le cours ici, il y a quelqu'un qui suit le cours qui est absent ce matin, mais c'est la 3e fois qu'elle fait le cours. D'accord? Parce qu'il y a des affaires qui... Tu pars, tu mets en application ce que tu retiens, puis oups, OK, là, tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'ont pas l'air de fonctionner. Là, tu refais le cours. Donc, peut-être prenez le temps de noter les leçons dans ce cours-là qui vous ont le plus challengé. Puis prenez le temps, prenez la décision d'aller vers ces leçons-là, aller les réécouter. Ça, c'est une ressource. Je vais juste pas mélanger deux items. Ouais, c'est ça ici. Le deuxième point, là, c'est ce que j'appelle souvent maintenant les rencontres de débogage. C'est sûr de ne pas vous induire en erreur. C'est ça, exactement. Donc, le deuxième item, c'est les rencontres de débogage. Je les ai mis en pause pendant presque deux ans, là, mais elles vont recommencer. Dans le fond, on a quelques trios puis quelques quads de coaching qui vont partir environ d'ici un mois. Et puis, à peu près un mois après, je vais recommencer ces rencontres-là. Ces rencontres-là, dans le fond, toutes les personnes dans l'Église qui coachent sont invitées. Je fais ça un dimanche soir, à peu près aux trois mois. Puis tous ceux qui coachent, vous pouvez venir. Moi, j'ai un sujet que je veux aborder avec les gens, toujours comme pour juste les challenger à aller plus loin dans le coaching. Mais principalement, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'est-ce qui ne marche pas? Puis là, on prend les questions. C'est quoi qui ne marche pas? Je suis pris avec une situation, la personne est dans un péché, puis je sens qu'elle résiste. Mais plus je pousse, plus elle se ferme. Je ne sais plus où aller, je ne sais pas quoi faire. Telle personne est en train de décrocher, on est en train de la perdre. Est-ce qu'on doit la laisser aller ou on doit courir après? Elle s'est engagée avec nous, mais là, on est en train de la perdre. Elle est en train de se retirer. Telle personne me dit constamment qu'on a un conflit de personnalité qui fait que ça ne marche pas. Puis moi, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'elle résiste au péché que Dieu veut adresser dans sa vie. Elle résiste à une œuvre de Dieu dans sa vie. Mais cette personne-là interprète ça comme un conflit de personnalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y en a mille questions, d'accord? C'est super intéressant. Puis comme maintenant, il y a plusieurs personnes que ça fait 5, 6 ans, 7 ans qui coachent, bien, lorsqu'on fait ces rencontres-là, dès que j'ai un, deux ou trois coachs expérimentés, souvent, moi, je fais juste dire, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu fais ça? Les gens embarquent, ils vont avec leur expérience à eux. Il y a des trésors de discussion dans ces rencontres-là, puis ça fait que... On se décourage pas, là. T'sais, on avance ensemble puis on grandit dans ça. Donc, ça, c'est les rencontres de débogage. Évidemment, peut-être que vous avez besoin d'être coaché vous-même. Alors, peut-être que vous pouvez embarquer dans une triade avant de commencer à coacher. Puis peut-être, fait que dans notre petit groupe, on a un quad qui va partir où, en réalité, il y a une personne qui a vraiment plus besoin de coaching que les trois autres. Mais pour moi, il y a deux gars qui sont en formation. Fait que pour moi, ils sont en train d'apprendre à être des coachs plus qu'à être coachés. C'est correct, on va le vivre ensemble pour à peu près 6 mois. Dans ce cas-là, je vais me retirer probablement d'ici 6 mois. Je vais laisser les trois gars continuer parce que j'ai déjà deux hommes relativement matures dans ce groupe-là. Puis eux vont continuer ensemble, d'accord? Fait que peut-être vous dites, mais je pense pas, j'ai besoin d'être coaché comme un nouveau chrétien, mais en même temps, je ne l'ai jamais vécu. Peut-être que tu te joins à un groupe où tu as deux jeunes chrétiens dans la foi. Puis toi, tu vas aller te faire coacher, mais tu es plus là pour apprendre de la personne plus expérimentée. D'accord? Des fois, c'est la bonne chose à faire. Évidemment, comme j'ai mentionné, à un certain moment donné, si vous grandissez dans votre leadership, on coach les leaders. On essaie de couvrir tout le monde, on n'arrive pas à couvrir tout le monde. Beaucoup plus de besoins avec les dames. C'est un défi pour nous d'avoir des dames matures qui peuvent coacher les femmes. Il y a vraiment un énorme besoin de ce côté-là. Alors, il y a des cours... Là, j'ai exprimé mes désirs lorsque j'ai dit que c'était donné à chaque année, mais c'est plus mon vœu. Il y a deux cours en particulier qu'on vous encourage à prendre. Il y a un cours qu'on essaie de donner, Dieu voulant, à chaque année, à changer vraiment comment, dans le cadre des cours bibliques le dimanche matin. D'accord? Donc, idéalement, ce qu'on chercherait, c'est qu'à chaque année, il y ait un cours qui tend un peu plus vers le counseling biblique, parce que le counseling biblique, c'est de la formation de disciples dans des endroits un peu plus difficiles. D'accord? C'est ça, le counseling biblique. Donc, si vous avez l'opportunité de prendre le cours le dimanche matin, comment changer vraiment, ça va vous aider énormément. Parce qu'on aborde, on commence à rentrer dans le sujet de la dynamique du changement, selon les Écritures. Comment est-ce qu'on change? Si vous voulez aller beaucoup plus loin, là, c'est de prendre le cours de Sam Beck qui est donné actuellement cette session-ci. On espère qu'il va revenir probablement chaque année. Mais là, on parle d'un cours qui n'est pas donné le dimanche matin. C'est un cours de niveau universitaire. Il y a des travaux à faire. Il y a des frais. Parce qu'il y a des crédits, il faut le prendre sans, avec ou sans crédit peut-être, mais il y a quand même des frais assez importants. Mais si vraiment vous voulez aller plus loin dans le coaching, c'est vraiment le cours de base à suivre, c'est dynamique du changement biblique. C'est-tu comme ça qu'il l'appelle le cours 1? C'est ça, hein? Counseling biblique 1. Mais dedans, on plonge vraiment beaucoup plus dans toute cette question-là de la dynamique du changement biblique. Ça va être super bon pour vous, ça va vous travailler vous premièrement, mais après ça, vous allez être beaucoup plus outillé pour commencer justement à avoir des discussions plus loin au niveau du coaching. honnêtement, c'est un cours que idéalement tout le monde prendrait, là, comme parent. Être coaché, être redevable. Alors, personnellement, moi, je suis redevable encore aujourd'hui. J'envoie des rapports de redevabilité à toutes les semaines à des personnes. Dans l'équipe pastorale ici, je ne suis pas tout à fait assez redevable. On veut travailler quelque chose là-dessus. Il y a un petit manque, d'accord? Là, actuellement, je n'ai pas vraiment personne qui me coach. Mais je vous dirais, depuis que je suis dans le ministère, là, peut-être en 20 ans, j'ai peut-être eu 5 ans où je n'ai pas eu de coach. J'ai toujours eu quelqu'un qui est en train de me coacher, que ce soit le pasteur avec qui je travaille ou que ce soit un pasteur expérimenté à l'extérieur. Donc, Richard Roule m'a coaché à nouveau pendant plusieurs années, des années après avoir quitté l'Église ici. Michel Famille l'a fait avec moi sur des domaines spécifiques, d'accord? Mais vous-même, quittez pas cet endroit-là où vous avez des gens qui ont ce regard-là où ils vous conseillent sur votre vie. Il y a toutes sortes de... Ça peut être plus un mentor. En général, on va définir un mentor comme quelqu'un qui se rend disponible quand j'ai des questions. Qui est un coach, c'est quelqu'un qui, intentionnellement, de manière entendue, va faire un suivi qui peut être une fois par mois, une fois par deux mois, mais c'est intentionnel, c'est planifié, d'accord? Souvent, on va faire cette nuance-là un petit peu entre les deux. Et je dois m'arrêter ici. OK, puis au bas de la page, ce que vous avez, le parcours de formation, les deux parcours, ça, on va y revenir la semaine prochaine, d'accord? Donc, on va y revenir soit la semaine prochaine ou dans une autre leçon, je suis plus sûr. Mais on va revenir sur ça. Donc, c'est pas grave si on ne couvre pas ça ce matin. On va terminer dans la prière. Père éternel, je veux te remercier pour chacune des personnes qui sont ici ce matin. Seigneur, je suis conscient que c'est un grand défi de s'engager sur cette voie-là, de faire du coaching. Et ce matin, en terminant la leçon, je me dis... Il me semble que si j'ai jamais vécu ça, ça m'intimiderait d'entendre tout ça. Seigneur, je veux te demander de nous apprendre à, premièrement, s'occuper de nos propres cœurs, à être à l'écoute de nos cœurs, à les examiner dans la prière, à la lumière de ta parole, écouter les gens autour de nous, le reflet qu'ils nous font sur nos propres vies, Seigneur. Apprends-nous à aller chercher des relations de redevabilité où on va confesser les péchés les uns aux autres. Et Seigneur, donne-nous le courage, soit de s'engager nous-mêmes pour être coachés ou pour commencer à coacher, Seigneur. Fais-nous grandir parce que c'est tellement au cœur de tout ce que l'Église est appelée à faire. Et Seigneur, on a à cœur de faire beaucoup plus que de donner des cours magistraux à un groupe ou simplement des prédications le dimanche matin. On veut vraiment s'investir dans les vies les uns des autres pour grandir à ton image. C'est en Jésus qu'on prie. Amen.